Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble. Jacques Nizin à la technique, Pilar Arcas au micro, Thomas Gillet, Johanna De Villers, vous êtes mes invités aujourd'hui. Merci d'être là. Depuis l'attentat à Charlie Hebdo, on ne cesse de parler de vivre ensemble, de liberté d'expression, du rôle de l'école et de la place du cours de religion. Le PS, le CDH se sont accordés pour instaurer un cours de citoyenneté dans l'accord de gouvernement. FDF et MR voudraient aller plus loin. Beaucoup partagent désormais le point de vue selon lequel les élèves ne doivent plus être divisés dans les cours dits philosophiques afin d'éduquer et d'inculquer ce fameux vivre ensemble. Alors, Johanna De Villers, une première question. Vous qui êtes chargée de mission à la cellule études et stratégie du Centre d'action laïque, aujourd'hui, dans l'enseignement officiel, les élèves ont encore l'obligation de choisir entre la morale non confessionnelle et l'une des cinq religions reconnues par l'État. Comment, dans ce cadre, aller vers plus de citoyenneté, vers un mieux vivre ensemble ?
Alors, dans ce cadre, c'est dans le cadre actuel des cours qui sont séparés dans l'enseignement officiel, c'est évidemment difficile de travailler le vivre ensemble, la citoyenneté. Ça peut se faire aujourd'hui dans le cadre d'autres cours, dans des cas de projet d'établissement ou via le décret citoyenneté, mais on sait bien qu'il est très peu appliqué, mis en œuvre dans les écoles. Il y a parfois des initiatives individuelles, mais sinon, dans le cadre des cours de morale et de religion qui séparent les élèves dans six options au moment où il s'agit de discuter de questions éthiques, morales, philosophiques, citoyennes, travailler le vivre ensemble, surtout dans des périodes comme ces dernières semaines où des questions cruciales se posent, où les difficultés ressurgissent avec force, c'est extrêmement compliqué. Et on a d'ailleurs eu le cas dans certains établissements.
Thomas Gillet, vous êtes professeur de morale à Alain Rassy, vous êtes agrégé de philosophie de l'ULB. Vous travaillez donc dans un réseau qui propose une alternative, enfin, qui fonctionne autrement, qui est que vous pouvez enseigner, donner cours de morale à tous les élèves, ensemble, de toutes sensibilités confondues.
Oui, tout à fait. Donc, moi, je travaille à Alain Rassy, qui est un établissement qui est lié à la FELSI. C'est l'enseignement libre non confessionnel et subventionné. Alors, effectivement, dans mon école, le pouvoir organisateur a pris la décision de supprimer les cours de religion et de ne donner qu'un seul cours, un cours de morale non confessionnelle, à l'ensemble des élèves, quelle que soit leur philosophie, leur croyance ou leur non-croyance. Donc voilà, tout le monde est réuni ensemble. Et effectivement, ça nous permet d'organiser des débats et de confronter les idées de manière beaucoup plus large que si on séparait les élèves.
D'accord. Est-ce que vous imaginez revenir dans le réseau de l'enseignement officiel et de fonctionner autrement ?
Mais je ne l'imagine pas. Je ne pense pas que ce soit le meilleur système. Je pense que notre système est préférable. D'une part, il permet de réunir tous les élèves, ce qui est vraiment une richesse pour construire le vivre ensemble, si on veut.
Je me permets de dire ça en boutade, parce que vous m'aviez dit hors antenne que vous sentiez un besoin, un cruel besoin de la part des élèves de réponses philosophiques.
Oui, tout à fait. Il y a une quête, une recherche, il y a une volonté aussi des élèves de comprendre l'autre, qu'il faut absolument pas négliger. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les élèves sont en demande de rencontrer, d'écouter les autres, de pouvoir discuter et d'arriver à leur réponse sur certains sujets ou à une réponse globale tous ensemble. Là où effectivement il y a une richesse dans le système de n'avoir qu'un cours unique, c'est que ça le permet de réunir tous les élèves ensemble. Mais en plus de ça, ça évite une des dérives qui est liée au choix du cours dit philosophique dans l'enseignement officiel, qui est une forme de clientélisme entre les différents cours pour ne pas perdre son nombre d'élèves et son nombre d'heures, ce qui est humain de la part des professeurs, mais qui est tout à fait, à mon sens, contre-productif en termes de qualité de l'enseignement et de pédagogie. Je n'aimerais pas avoir à adapter mon cours à un éventuel choix d'élèves parce qu'ils trouvent ça trop compliqué ou qu'ils préféreraient aller passer du temps avec ses amis dans un cours de religion quelconque.
On peut vous comprendre. Johanna De Villers, dans la Constitution belge, il est dit que tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. Donc ce droit est en fait un devoir. Comment est-ce qu'on peut faire parler autrement la loi ? Qu'est-ce qu'on peut lui faire dire pour contourner éventuellement
Alors, C'est pas tout à fait contourner la loi. C'est quand le droit n'est pas une science exacte et la loi peut toujours être l'objet d'interprétations et de lectures différentes. Alors on a récemment une série de constitutionnalistes de différentes universités, autant catholiques que libres ou non confessionnelles, qui ont proposé une lecture de la Constitution selon laquelle cette obligation d'avoir une éducation morale ou religieuse s'adressait aux écoles et pas aux élèves. Et donc les écoles officielles seraient dans l'obligation, selon la Constitution, d'offrir aux élèves, à leur demande, une formation, ou à la demande des familles quand ils sont mineurs évidemment, une formation religieuse ou morale, mais les élèves ou leur famille aurait le droit de refuser. Alors, comme le dit Utenel dans l'un de ses plaidoyers, il dit c'est comme si on offre une éducation morale quand on fait un cadeau, et si on ne peut pas le refuser, c'est pas un cadeau, c'est un piège. Et donc, effectivement, les parents, les élèves sont pris quelque part au piège dès la première primaire, de devoir choisir une option philosophique. Alors effectivement, ça crée des difficultés d'organisation dans l'enseignement officiel, jusqu'à 6 options. Ça peut créer le danger d'un clientélisme. Alors par le haut ou par le bas, on va là où le prof est le plus sympa, là où le prof est le moins exigeant, là où voilà, il y a le moins de travaux.
Oui, ça c'est encore un moindre mal.
Mais surtout, on identifie les élèves, on contraint les parents à identifier leur enfant selon un courant philosophique dès la première primaire, ce qui peut poser quand même des questions.
Ce que vous trouvez discriminant.
Ce qui est discriminant et qui, ça reste le dernier lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles où on identifie les gens, et a fortiori des enfants, sur base de leur orientation philosophique. Ça pose quand même...
Question, effectivement.
Question,
retour au...
De celle de leurs parents, même pas nécessairement. Juste de l'orientation des enfants,
sûr,
c'est ça qui... Quand on parle justement de volonté d'éduquer des citoyens et qu'ils s'émancipent, qu'ils aient une éducation citoyenne, etc., il faut pas aller les parquer selon les croyances de leurs parents pour qu'ils s'émancipent et fassent leur propre choix.
Retour au réseau FELSI, si vous le voulez bien. Thomas Gillet, avec vous un moment. Donc l'enseignement libre, non confessionnel. Histoire de rentrer un peu dans le vif du sujet, comment se passe ce cours de morale ? Il doit y avoir aussi des moments qui sont un peu particuliers. Il y a des sujets et des thématiques qui doivent être sensibles.
Tout à fait. Donc, comment est-ce qu'il se passe ? Il se passe très bien en général, mais effectivement, il y a à certains moments des conflits. Hein, effectivement, entre sur certains sujets, je pense notamment à la question du créationnisme, à des débats de société, l'euthanasie, la peine de mort. Enfin, comme il peut y en avoir, à mon avis, dans tous les réseaux, puisque ce sont des questions que beaucoup d'élèves se posent, indépendamment du réseau dans lequel ils sont inscrits. Maintenant, effectivement, le fait d'avoir tous les élèves ensemble apporte une richesse parce que elle augmente la diversité des points de vue et des connaissances que les élèves et du bagage que eux peuvent apporter. Donc chacun apporte un petit peu son vécu, son histoire, sa culture et la confronte à celle des autres pour arriver justement à construire ensemble, petit à petit. Hein. Donc c'est justement surtout ces sujets un peu sensibles, c'est du choc des pierres que naît l'étincelle, et pas autrement. Donc il est le conflit, la contradiction et les situations qui peuvent parfois être paradoxales, c'est ce qui nourrit justement le questionnement philosophique et la recherche de réponses.
Puisque vous parlez de conflit, nous avons tendu notre micro à Carlo De Pascale, il est animateur culinaire à l'RTBF. Lui, sa fille et sa compagne ont introduit un recours. Ils ont décidé de ne pas inscrire leur fille dans un cours de morale ou de religion dans un établissement de l'enseignement officiel, et après avoir épuisé tous les recours possibles contre cette obligation, son cas est en traitement à la Cour constitutionnelle. Je lui ai demandé quelles étaient les conséquences de son choix. On l'écoute.
Alors, au niveau conséquences pratiques, aucune. Julia, pour laquelle nous avons fait le recours, elle continue à aller au cours de morale, évidemment. Tant que le recours, on a fait un recours de principe. On n'est pas en train de on ne va pas faire non plus, on ne va pas demander dommages et intérêts à l'État belge pour avoir forcé notre enfant à aller à un cours de morale. Pas question de ça. Donc, Julia va au cours de morale et son diplôme est régulièrement homologué. Elle ne fait pas un sit-in devant la porte avec un calico pour dire je ne veux pas choisir. Pour le moment, elle a choisi.
Donc, c'est une prise de position qui est symbolique.
Oui, la prise de position est symbolique de principe. C'est-à-dire que à la rentrée, pas cette rentrée-ci, la rentrée précédente, quand j'ai reçu le formulaire de choix du cours philosophique, en accord avec Julia et avec la maman de Julia, nous avons barré tous les choix et nous l'avons remis de cette manière en disant bon, on n'a même rien dit, on a barré tous les choix.
Je lui ai ensuite demandé pourquoi précisément le choix du recours, on l'écoute.
D'abord, je suis juriste, moi, au départ. Donc, à partir du moment où il se pose un problème juridique, qui est un problème en plus qui ne présente pas de gravité immédiate, mais qui touche à une question de principe, eh bien, on suit les principes. Nous faisons la procédure envers l'école. L'école nous dit qu'elle doit en appeler au pouvoir organisateur, à savoir la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles dit « je ne suis pas compétente, j'en réfère au cabinet, ou plutôt au ministre compétent de l'enseignement ». Le ministre prend une décision administrative qui est « je n'accepte pas ce refus, la Constitution dit que vous êtes obligé de choisir », ou en tout cas l'interprète comme tel. Nous faisons un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État pose la question à la Cour constitutionnelle. Et là, on en est là, on attend la réponse de la Cour constitutionnelle. Notre point juridique unique, c'est le caractère non obligatoire de ces cours. Nous ne sommes pas législateurs, nous citoyens, nous parents de Julia, donc nous ne pouvons pas décider de la suppression de ces cours. Il va de soi que d'un point de vue en tant que citoyen militant pour le vivre ensemble, notre envie derrière ça, c'est que un jour nos enfants qui sont dans les écoles officielles et même les enfants qui sont dans toutes les écoles reçoivent un cours de citoyenneté, de droit, d'histoire des religions, de philosophie, le même pour tous. Dans le cadre d'une école, dans le cadre d'un système où les enfants ne sont pas séparés pour ce que l'on appelle les cours philosophiques, qui sont de fait le plus souvent des cours de religion.
Voilà, donc en conclusion, Carlo De Pascalet voudrait un cours de citoyenneté, de droit, de philo, d'histoire de religion, le même pour tous, dans tous les circuits et avec dispensé à tous les élèves réunis. Johanna de Villers, on peut vous entendre là-dessus ?
Alors, c'est très important, la démarche de ses parents, et c'est très important pour l'ensemble des parents, l'enseignement officiel. Donc, on attend l'avis de la Cour constitutionnelle. Lundi passé, j'ai encore téléphoné au greffe. On n'aura pas encore la réponse cette semaine, mais on espère que la réponse arrivera dans les semaines qui viennent. Alors, si la réponse de la Cour constitutionnelle est effectivement positif, c'est-à-dire que les cours de... On ne peut pas contraindre des parents à choisir un cours de religion ou un cours de morale, alors les cours de religion et de morale pourraient devenir facultatifs. C'est-à-dire qu'on pourrait les inscrire hors tronc commun, hors grille horaire obligatoire, et ça ouvre la possibilité de créer un cours commun, ce fameux cours de citoyenneté, de droit, de philosophie, dont parle Carlo Di Pasquale, dans le cadre du tronc commun qui serait consacré à tous les élèves réunis.
Voilà pour la première partie de notre émission. On va entamer la seconde partie de celle-ci après avoir écouté Rehab de Amy Winehouse. We'll be right back. Bonjour, vous êtes professeur de morale dans l'enseignement officiel dans une école de la ville de Bruxelles. Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression des cours de religion et de morale obligatoires dans ce réseau officiel ?
Voilà, alors d'abord, je suis professeur de morale dans plusieurs écoles de la ville de Bruxelles et depuis longtemps. Alors, j'ai une formation de philosophe et ça fait 30 ans que je souhaite un cours de philosophie dans l'enseignement secondaire. La chance que nous avons à la ville de Bruxelles, c'est que le cours de morale a été donné prioritairement à des philosophes, ou en tout cas à des gens qui sont sortis de philosophie, la plupart du temps de l'ULB, et que notre programme de morale comprend déjà l'introduction de la philosophie dans le cours de morale.
Et comment intégrez-vous alors ce cours de philo dans le cours de morale ?
Alors, ce sont d'abord la forme, chaque année, ce sont des grosses questions. Le programme est composé de grosses questions, ce qui est quand même le propre de la philosophie. Et en ce qui me concerne, de la quatrième à la sixième, les grandes questions sont: qu'est-ce que l'homme ? Qui suis-je ? Dans quelle société je veux vivre ? Et qu'est-ce que je tiens pour vrai ? Et il me semble qu'avec ces questions-là, on tient déjà toutes les questions qui se posent à partir de l'actualité récente, par exemple.
Et comment verriez-vous de façon idéale un cours de philosophie intégré tout à fait dans le réseau, dans le cadre scolaire et à l'intérieur du cours, du programme scolaire ?
Alors il faudrait que ce soit évidemment un cours commun qui se déroule toute l'année, au moins 2 heures semaine. Et ça ne devrait pas être un cours d'histoire, la philosophie. Je ne pense pas que l'histoire, la comparaison n'est pas raison. Ça devrait être un cours de questionnement, enfin, commencer par un questionnement philosophique, donc dans la méthode. Le questionnement philosophique amène nécessairement à devoir définir des concepts. Et là, on est déjà dans la démarche philosophique. Donc, définir un concept, tout récemment, à partir des événements de l'actualité, le concept clairement qui est ressorti, c'est le respect. Tous les élèves parlent de respect, il faut respecter, mais on n'a pas défini ce que c'était que le respect. Donc, questionner, chercher à définir, conceptualiser, et puis essayer d'argumenter. Voilà, ça me paraît être, à travers la méthode, la façon d'introduire la philosophie, ce que nous faisons déjà dans nos cours, et puis y répondre avec les élèves, et leur apporter à ce moment-là les textes, les grands textes de la philosophie. Philosophie du droit, philosophie de l'art, philosophie des sciences. Et voilà, d'abord une confrontation des points de vue à partir du questionnement, définition des concepts, et puis à ce moment-là seulement comparaison avec les différentes philosophies de l'histoire.
Eh bien voilà, vous venez d'écouter le témoignage de cette professeure de morale qui donne cours dans plusieurs établissements de la ville de Bruxelles et qui, elle aussi, est agrégée de philosophie et a les titres requis. Johanna de Villers, je peux vous entendre en réaction à ce témoignage ?
Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on voit qu'une enseignante qui a enseigné plus de 30 ans dans l'enseignement officiel demande aujourd'hui la mise en place d'un cours commun à tous les élèves, d'un cours de philosophie, mais beaucoup plus large que ça, qui travaille avec la démarche philosophique, avec des méthodes de questionnement philosophique, c'est la question du débat, de qu'est-ce qu'on fait avec le conflit, etc. Et donc, après 30 ans d'enseignement de morale, elle continue à revendiquer un cours commun pour tous les enfants. Donc c'est vraiment intéressant comme témoignage.
Thomas Gillet, une réaction par rapport à ce témoignage ?
Moi, je ne peux que rejoindre la volonté de cette collègue de la nécessité d'un cours unique de philosophie. C'est évident qu'il y a une réelle demande des élèves par rapport à ces questionnements, j'aurais insisté là-dessus, et l'effet d'actualité comme Charlie Hebdo, ça crée des questions, les élèves sont parfois un peu perdus, ils sont souvent très remontés ou très opposés les uns avec les autres, Et c'est justement pour ça qu'il est essentiel que tout le monde soit ensemble pour discuter de ça. Il y a une méthode, on place un cadre, ben on l'a dit, questionnement philosophique, argumenter, conceptualiser, définir les termes pour savoir de quoi on parle. Et ça, c'est absolument essentiel pour arriver justement à construire ensemble. Il faut dépasser le conflit, mais pour dépasser le conflit, il faut l'intégrer. Il ne faut pas le cloisonner, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et les conflits, ben, ils apparaîtront dans la cour de récréation.
Ben, ils sont apparus, malheureusement. Comme
ou à la sortie de l'école.
À la sortie de l'école.
Donc, il est essentiel qu'en classe, nous puissions cadrer, et même si parfois il y a des conflits, et ce n'est pas toujours évident à gérer le conflit, mais ça fait partie du vivre ensemble. Et construire ensemble, ça ne veut pas dire chacun discute de son côté et est d'accord, d'accord avec ceux qui pensent comme lui. Non, au contraire, il faut faire avancer le débat, et ça, il faut la contradiction, et donc que tout le monde soit ensemble. C'est une nécessité absolue pour que le vivre ensemble puisse se construire, à mon sens, dans les meilleures conditions.
Donc justement, ce face-à-face et faire face au débat, à l'opinion contraire de l'autre, c'est ça aussi l'exercice.
Tout à fait, et c'est aussi une manière de penser. On demande aussi à nos élèves d'être capables de se décentrer parfois, de se mettre à la place de l'autre, de comment est-ce qu'il pense, de comment est-ce que lui ressent les choses. C'est des choses qu'on ne fait pas aisément, que même les adultes ne font pas aisément, mais qui est un exercice qui est salutaire pour comprendre la complexité du monde. Parce que la philosophie, c'est aussi ça, c'est appréhender la complexité du monde. Et cette complexité-là, eh bien, elle va apparaître chez l'autre, plus que chez nous. Chez nous, on a une tendance...
C'est humain.
C'est humain d'avoir son avis, etc., même si on se pose des questions. Mais l'autre va justement nous pousser, la contradiction va nous pousser justement à nous remettre en question, mais aussi peut-être à affirmer, et sûrement à affirmer notre point de vue après. Mais la philosophie, la démarche philosophique, le questionnement, l'argumentaire, la conceptualisation, ça nous permet justement de comprendre le monde, et ça doit se faire avec tous les élèves, parce qu'ils en sont tous capables, certainement, et qu'il y en a énormément qui le demandent. C'est quelque chose d'important pour eux.
Oui, c'est peut-être le plus important, effectivement. Alors, Thomas Gillet, vous êtes très à l'aise, visiblement, dans cet exercice avec vos élèves. Je crains que certains professeurs le soient un peu moins, qu'il y ait des craintes, de véritables inquiétudes. Je sais, Joannette Villers, que vous travaillez main dans la main avec les professeurs.
Alors, on mène effectivement une réflexion au Centre d'Action Laïque sur la réforme possible des cours de morale et de religion, notamment suite à la déclaration de politique communautaire qui prévoit un nouveau cours d'une heure de citoyenneté. Et donc, on essaie de mettre du contenu, on essaie de réfléchir à comment ça pourrait s'organiser. Donc, on travaille aussi en rencontrant des enseignants de morale. Alors, on aimerait bien que ce soit plus qu'une heure, mais ça, on ne sait pas encore aujourd'hui si on pourra avoir un vrai cours commun de deux heures de citoyenneté, de philosophie ou de questionnement philosophique. Les craintes des enseignants, elles sont légitimes. Ils ont peur d'être bousculés, ils ont peur de devoir se former, mais ils sont aussi en demande. Ils sont aussi en demande de formation, de soutien. Moi, j'ai rencontré des professeurs de morale qui se sentent très démunis par rapport à la formation continuée, par rapport à l'inspection, pas nécessairement à Bruxelles, un gros pouvoir organisateur comme la ville de Bruxelles qui met pas mal de choses en place pour ces professeurs de morale, mais dans d'autres pouvoirs organisateurs, c'est moins évident. Les professeurs de morale sont parfois beaucoup plus isolés. Donc, ils sont démunis, ils sont pas accompagnés ou trop peu accompagnés. Donc, ils sont aussi en demande de renforcement de la formation, de renforcement des statuts. Et donc, une manière de renforcer aussi cette formation au sein des écoles, ce serait pas de maintenir nécessairement les cours de morale, évidemment. Ce serait remplacé par un cours commun, mais on pourrait très bien imaginer faire une reconversion, proposer une reconversion aux professeurs de morale via la formation continuée, via l'accompagnement pédagogique d'une cellule pédagogique spécialisée, etc. Donc il y a tout à fait moyen de faire des choses très positives.
Et je vois que, et ce sera votre dernier mot et votre dernier acquiescement, je vois Thomas Gillet que vous acquiesciez. Merci beaucoup en tout cas Joannette Villers et Thomas Gillet d'avoir été parmi nous. Et vous, chers auditeurs, à très vite.